Europe 1, il est 6h.
Des menuisiers qui vont côtoyer des serruriers, qui vont côtoyer des maroquiniers. La manufacture amène des clients et entre eux, ils se sous-traitent aussi, donc ils s'entraident.
Une nouvelle idée du gouvernement pour relancer l'emploi et l'économie dans les territoires, les manufactures de proximité, quand les artisans partagent locaux et matériels, on vous explique. La fin de l'espace de 4 mètres carrés pour chaque salarié, changement majeur du nouveau protocole sanitaire dans les entreprises qu'Europe 1 s'est procuré. Nous irons à Nîmes où de jeunes élèves ne peuvent plus suivre les cours dans leur école habituelle. Ils ont dû déménager pour raison de sécurité, trafic de drogue et tir à l'arme lourde dans le quartier.
Des douilles de calibre 9 mm ont été trouvées dans le parking de l'école. Nos élèves et nous-mêmes n'étions plus en sécurité.
Ça m'a mis les larmes aux yeux. Mais on tiendra.
Et puis la culture reprend peu à peu ses droits. Le musée d'Orsay à Paris rouvre aujourd'hui des expositions décalées de 3 mois. Il a fallu convaincre les prêteurs.
On a énormément travaillé sur le recalage en fait, général de la programmation. C'est-à-dire qu'on n'a rien annulé et on a tout décalé.
Juste après ce journal, un marathon pour soutenir les soignants. Les coureurs du marathon de la solidarité vont relier 24 hôpitaux de Paris pour récolter des dons. 6h25, le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassène. Retour sur les derniers propos polémiques de Sibeth Ndiaye. Il est 6h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Vous vous sentez peut-être un peu isolé parfois au bureau, dans l'open space ou à votre atelier. Depuis le déconfinement et le retour progressif au travail, le protocole sanitaire exigeait entre autres un espace de 4 mètres carrés par salarié. Ce devrait être bientôt fini.
Europe 1, vous en parlez dès la semaine dernière. Le gouvernement va alléger le protocole sanitaire dans les entreprises. Olivier Samain a pu se procurer le nouveau texte.
C'est le seul vrai changement par rapport au protocole que le ministère du Travail avait publié au début du mois de mai. Fini l'obligation de garantir une surface minimum de 4 mètres carrés par salarié. Il suffira désormais de respecter une distanciation physique d'un mètre par rapport à toute autre personne, qu'il s'agisse d'un autre salarié, d'un prestataire ou d'un client. Dans les faits, le ministère du Travail transpose à l'entreprise les règles appliquées depuis hier dans les écoles et les collèges. Les autres mesures instaurées début mai ne changent pas. Maintien des gestes barrières, notamment l'incitation à se laver les mains fréquemment et la fourniture de gel hydroalcoolique. Port du masque obligatoire quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Persistance du plan de circulation pour éviter que des personnes ne se croisent dans les couloirs et les espaces communs. Ou encore poursuite du nettoyage et de la désinfection des locaux au minimum une fois par jour.
Le texte doit être publié dans les tout prochains jours. L'allègement du protocole va permettre le retour de davantage de salariés et la relance de l'activité.
La relance, justement. Le gouvernement s'y attelle via notamment la création de 500 manufactures de proximité. Qu'est-ce que c'est ? Dans les villes petites et moyennes, les artisans partageraient des locaux, du matériel pour une meilleure rentabilité.
Explication Romain Noquet qui s'est appuyé sur une expérimentation déjà en cours du côté du Puy-en-Velay.
Reconvertir des friches industrielles en ateliers partagés pour les artisans locaux, voilà l'ambition des manufactures de proximité. Des espaces de plus de 1000 mètres carrés où ces entrepreneurs pourront mutualiser leur réseau et le matériel le plus coûteux, par exemple une imprimante 3D. Un projet inspiré d'initiatives individuelles qui existent déjà sur le territoire. Au Puy-en-Velay, dans un ancien entrepôt, Nicolas Barre accueille une cinquantaine d'artisans très différents.
Donc des menuisiers qui vont côtoyer des serruriers, qui vont côtoyer des maroquiniers. La manufacture amène des clients et entre eux, ils se sous-traitent aussi, donc ils s'entraident. Au bout d'un an, ils ont 3 à 6 mois de commandes d'assurer devant eux en moyenne.
Et c'est justement dans des villes moyennes ou des territoires ruraux, à l'écart des métropoles, que ce modèle de manufacture pourrait se multiplier. Le projet est sur le bureau de la ministre de la Cohésion des Territoires. Jacqueline Gourault, très intéressée, fait dire à son cabinet que c'est un moyen de recréer une dynamique face à la crise. Mais il y a un bémol, nous dit-on, la facture qui risque d'être lourde pour l'État. 700 000 euros d'investissement pour chacune des 500 manufactures.
Les syndicats de Nokia, reçus aujourd'hui au ministère de l'économie, le groupe télécom finlandais envisage la suppression dans sa filiale Alcatel-Lucent de 1233 emplois en France, un tiers des effectifs du pays. Bercy demande à Nokia d'améliorer, je cite, très significativement son plan.
C'est le quatrième plan, quatrième depuis le rachat d'Alcatel il y a 5 ans. Pourtant, à ce moment-là, Emmanuel Duteil, Nokia avait pris des engagements.
Nokia avait promis de maintenir les effectifs au même niveau lors du rachat en 2015. Maintenir, ça veut dire potentiellement supprimer des postes dans une division, mais en créer dans une autre pour compenser. Le groupe avait promis, par exemple, d'embaucher des ingénieurs et d'avoir 2500 ingénieurs en France jusqu'au 1er juin de cette année. Mais voilà, le groupe n'y arrive pas et il a attendu la levée de ce dernier engagement pour annoncer cet énorme plan social. Ce qui fait dire au syndicat que c'est une trahison, il parle aussi de catastrophe. Il faut dire que l'entreprise est lâchée aujourd'hui dans la compétition mondiale, notamment sur la 5G. La direction de Nokia le reconnaît. On doit s'adapter à une situation de marché compliquée. C'est un plan mondial qui touche aussi la France, dit la direction. Mais au gouvernement, on ne l'entend pas de cette oreille. On va être derrière eux pour les obliger à faire mieux, dit-on à Bercy, où l'on reconnaît malgré tout que l'on manque de marge de manœuvre.
Sur le front de l'épidémie, Mayotte et surtout la Guyane, toujours surveillée de très près, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est attendue en Guyane dans les prochaines heures.
Europe 1, il est 6h05.
De jeunes élèves d'une école élémentaire contraints de quitter leur établissement et d'aller suivre les cours ailleurs pour raison de sécurité. C'est ce qui se passe en ce moment à Nîmes, dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon, quartier sensible, gangréné par le trafic de drogue. Des coups de feu résonnent régulièrement, parfois tirés à l'arme de guerre.
Situation intenable, hein. La mairie a fermé les et ordonner la délocalisation des cours dans un centre de loisirs voisin pour fuir ces violences. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Nathalie Chevance.
Il y a plein de guetteurs. S'ils partiraient, on serait déjà tranquille. Il n'y aurait plus de problème ni rien.
C'est pour éviter davantage de traumatismes qu'il a fallu délocaliser l'école. 150 enfants transférés tous les matins par bus dans un centre de loisirs en pleine nature. Un hiver apaisant, loin du réseau et des trafiquants qui ne respectent plus rien. Christophe Boissier, directeur de l'établissement.
Trois intrusions dans la cour de l'école qui donc nous font déclencher l'alerte intrusion attentat où des douilles de calibre 9 mm ont été trouvées dans le parking de l'école par moi-même. Les parents de nos élèves et nous-mêmes n'étions plus en sécurité pour travailler sereinement, calmement et pour assurer nos missions que la République nous demande d'assumer. Ça me met les larmes aux yeux. Mais on tiendra.
Avec une équipe pédagogique et des familles qui se serrent les coudes, soulagées malgré tout par ce déménagement, Saïda est maman de deux petites filles.
Nos enfants n'étaient pas en sécurité. C'est pas normal qu'on ait la peur au ventre. Au lieu de dire à nos enfants le matin, travaillez bien, on leur dit faites attention. Si vous entendez un bruit, mettez-vous sous la table. Enfin, des coups de feu.
Et un nouveau grillage de sécurité devrait être installé autour de l'école pour la rentrée de septembre. Nîmes, Nathalie Chevance, Europe 1.
Les fouilles se poursuivent aujourd'hui dans les Ardennes, dans une ancienne maison du tueur en série Michel Fourniret. Les enquêteurs recherchent depuis hier le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003.
Ce sont des vidéos qui fragilisent les quatre policiers impliqués dans la mort de Cédric Chouvia. Un livreur de 42 ans, vous le savez, interpellé pour un contrôle routier en janvier à Paris.
13 vidéos analysées par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Et d'après le journal Le Monde et le site Mediapart, Cédric Chouvia a répété plusieurs fois « j'étouffe » sans que les policiers ne réagissent. Alain Accot.
Ce sont ses tout derniers mots. J'étouffe. Cédric Chouvia les a répétés 7 fois avant de sombrer dans le coma. Tout est enregistré sur le téléphone portable avec lequel il a filmé les policiers pendant le contrôle. Enregistré jusqu'à la toute fin grâce au micro placé à l'intérieur de son casque de moto. 12 minutes d'échanges tendus et de provocations verbales. Vous kiffez mettre les amendes, pauvre type. Clown, sans votre uniforme, dans la rue, vous êtes rien du tout. Jusqu'à un dernier guignol qui fait tout basculer, semble-t-il. On ramène, lance alors un fonctionnaire. Chouvia est mis au sol, clé d'étranglement ou prise arrière de la tête, plaquage ventral. Il hurle « Arrête, je m'arrête !» Et puis donc, j'étouffe. A-t-il vraiment crié, comme l'assurent Le Monde et Mediapart, qui ont lu la retranscription de la scène dans le rapport d'enquête? Ou était-ce un filet de voix enregistré par le micro du casque, mais quasiment inaudible, comme voudraient le croire les proches des fonctionnaires? C'est peut-être sur ce détail que se jouera la mise en examen des policiers.
Les quatre policiers ont été placés en garde à vue la semaine dernière et auditionnés par l'IGPN. Le rapport de la police des polices a été transmis au juge d'instruction.
Europe 1, il est 6h09.
On voulait vous parler ce matin de cette découverte archéologique sans précédent en Angleterre. Près du célèbre site de Stonehenge, les scientifiques ont trouvé une vaste structure préhistorique. Un cercle, 2 km de diamètre, délimité par une vingtaine de cavités larges et profondes. Tout cela autour de menhirs monumentaux. Cela aurait été construit il y a plus de 4500 ans. Par qui ? Pourquoi ? Nous sommes en ligne avec le conservateur en chef du patrimoine au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.
Bonjour Laurent-Olivier.
Bonjour.
Alors d'abord, très simplement, qu'est-ce qu'on a découvert du côté de Stonehenge ?
On a découvert quelque chose qui était complètement insoupçonné. C'est un immense anneau qui fait à peu près 2 km de long et qui entoure toute une série de constructions monumentales qui étaient jusqu'à présent complètement inconnues. C'est une découverte sans précédent.
Pourquoi est-ce que c'est important comme découverte ?
Parce qu'en fait, ça montre que vers 3000 avant Jésus-Christ, on a déjà des constructions d'une immense complexité qui requièrent non seulement de la technologie, il faut pouvoir creuser des fosses jusqu'à 5 mètres de profondeur, déplacer sans doute des blocs de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes, mais aussi qu'il y a de la science derrière ça. C'est-à-dire que il faut pouvoir concevoir les alignements, calculer les distances dans l'espace. Bref, c'est des techniques qui aujourd'hui sont bien maîtrisées depuis le 18e siècle, mais on ne savait pas qu'elles étaient maîtrisées également à l'époque du néolithique.
Justement, comment est-ce qu'on a pu construire des choses pareilles ?
Alors, ça, c'est un vrai problème parce que on se rend compte qu'il faut des capacités d'ingénieurs, hein, non seulement pour déplacer les matériaux, les mettre en œuvre, il faut des précisions de l'ordre du millimètre, hein, sur des portées plusieurs dizaines de mètres de longueur, donc c'est un travail de grande précision. Il faut pouvoir lever aussi les blocs. Donc tout ça, ça implique des connaissances savantes derrière, parce que en fait, c'est pas fait du tout au pif, c'est calculé, et c'est calculé selon des règles de géométrie. Et ces règles de géométrie, en fait, elles ont été formalisées par les Grecs au 4e siècle avant Jésus-Christ. On a tous appris le théorème de Pythagore. Mais ça signifie que déjà à l'époque néolithique, donc à l'époque des premiers agriculteurs, on sait maîtriser ces calculs géométriques. D'ailleurs, le terme grec, ça veut dire mesurer la terre. Et c'est exactement ça dont il est question.
Et est-ce qu'on sait pourquoi cette construction, à quoi elle pouvait bien servir, pourquoi faire ?
Alors c'est juste une découverte qui vient de sortir, hein. Il faut qu'on continue les recherches, il va falloir qu'on fasse des fouilles, mais apparemment c'est une grande délimitation, c'est une limite d'un grand complexe cultuel qui rassemble un ensemble de monuments et qui semble fonctionner, en tout cas c'est ce que pensent nos collègues britanniques, qui semble fonctionner comme une sorte de couloir le long duquel on se déplace par rapport aux monuments. Ça a sans doute aussi une fonction d'observatoire, c'est sans doute lié à l'observation des étoiles également.
Laurent Olivier, archéologue et historien, merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin. Le déconfinement de la culture, ça continue.
Les grands musées rouvrent peu à peu. Orsay aujourd'hui, réservation et masque obligatoire et beaucoup moins de monde au fil des œuvres pour respecter la distanciation. Diane Chenouda.
Les équipes n'ont pas chômé pendant les 3 mois de fermeture. Objectif, sauver toutes les expos programmées depuis la mi-mars. Laurence Descartes est la directrice du musée d'Orsay.
On a continué à travailler tout simplement à distance. On a énormément travaillé sur le recalage en fait, général de la programmation. C'est-à-dire qu'on n'a rien annulé et on a tout décalé.
C'est le cas par exemple de l'exposition Tissot qui aurait dû ouvrir une semaine après le confinement et qui a pu être décalée de 3 mois jusqu'à la réouverture du musée aujourd'hui.
Ça veut dire travailler avec nos partenaires internationaux, passer beaucoup de temps au téléphone, en visioconférence et avec les prêteurs qui ont tous accepté de décaler leurs prêts.
En tout, pour l'expo Tissot, une quarantaine de prêteurs, des musées et collectionneurs du monde entier qu'il a fallu convaincre de laisser leurs œuvres encore 2 mois de plus, sans contrepartie.
Ça se négocie vraiment sans relâche. Hein.
Sans relâche et dans la confiance aussi, d'un esprit de solidarité entre institutions et de la part aussi des collectionneurs privés.
La solidarité internationale a joué à plein et une dizaine d'agents du musée ont surveillé jour et nuit les œuvres qui étaient déjà toutes accrochées avant le confinement.
Diane Chenouda.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'était le journal de 6h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. La matinale d'Europe 1, Mathieu Bellière, votre invité à suivre.
Invité inattendu, on va parler de cette initiative. Un marathon pour soutenir les blouses blanches, pour soutenir les soignants. Un marathon qui va rallier finalement les hôpitaux parisiens. Tout de suite.
Europe 1, il est 6h15, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler.
Et s'il y a un peu moins d'enthousiasme à 20h le soir sur les balcons, les Français sont toujours reconnaissants et en soutien des personnels soignants. Les blouses blanches, comme on dit, qui restent mobilisées hein, en ce moment, faut pas les oublier. Pour preuve du soutien des Français, cette initiative sportive dont on va parler ce matin. Les JO de Tokyo sont reportés d'un an, mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, 23 juin, c'est la journée olympique.
Et votre invité inattendu, Mathieu Belliard, c'est Florence Coll, ancienne athlète, chef de service de réadaptation neurologique aux hôpitaux de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne.
Bonjour Florence Coll.
Bonjour Mathieu Belliard. Bonjour.
Double casquette hein, pour vous, l'athlète et le personnel de santé, chef du service de réadaptation neurologique. Florence Coll, présentons cette initiative, vous donnez le coup d'envoi ce matin, d'un marathon de la solidarité, top départ, 10h de l'INSEP, l'Institut National du Sport, dans le bois de Vincennes. Racontez-nous le concept.
Alors en fait c'est une idée d'un prof de PS, Christian Cordier. Qui m'a appelé il y a quelques semaines maintenant. Il était devant sa télévision. Alors, c'est quelqu'un qui a déjà des choses à son actif dans ce domaine-là parce qu'il fait quelques petites manifestations sportives, notamment pour le handicap. Mais là, pendant le confinement, en fait, il était dans son canapé et il disait « Mais qu'est-ce que je peux faire pour ces soignants qui se battent ?» Et il a eu l'idée de ce marathon de la solidarité. Donc, le principe, c'est 6 équipes de 6 à 10 coureurs qui vont partir de l'INSEP, qui vont respecter les mesures barrières, très importantes dans l'époque actuelle, et qui vont partir de l'INSEP et qui vont rejoindre en étoile 32 hôpitaux de la région parisienne. Et donc, symboliquement, c'est vraiment pour remercier les soignants. Et dans ces équipes, on va avoir des gens de la société civile, hein, des soignants également, des militaires, des profs de PS, des sportifs, d'anciens sportifs, et notamment l'ancienne record woman de France du marathon, Christelle Launay, par exemple. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça très très chouette comme initiative. Et vous puis c'était aussi sortir du confinement par le mouvement.
Oui, alors simplement par rapport au parcours, ce que j'ai regardé, hein, c'est un marathon avant tout. Hein, vous allez courir, vous disiez, dans le respect des gestes barrières, c'est important en ce moment. Comment on fait pour organiser une course à pied et respecter à la fois ces gestes barrières?
C'est assez simple, il faut rester à distance. Hein. Et puis là, ce sont des tout petits groupes de coureurs, 6 à 10, hein, je vous ai dit. Voilà, donc c'est ça. Et puis sur le trajet, il va y avoir quelques personnels hospitaliers qui vont accueillir les coureurs aussi, pareil, avec les masques et la distanciation sociale qu'il faut absolument continuer à respecter pour l'instant.
Et vous le disiez, Florence, il y a un symbole post-confinement. On a passé 2 mois à ne pas bouger. Là, la réponse et le soutien que l'on donne au personnel de santé, c'est en bougeant beaucoup.
Oui, en bougeant. Alors là, en courant, et le maître mot, c'est l'activité physique. Alors là, le marathon, c'est sûr que ce n'est pas accessible à tout le monde. On peut tout à fait imaginer qu'on puisse le faire par relais, hein, par exemple. Mais là, reprendre l'activité physique, lutter contre... alors, vous savez, hein, les personnes qui sont mortes du Covid, pour la plupart, étaient soit âgées, soit avaient des facteurs de risque, et notamment des facteurs de risque vasculaires, l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète. L'activité physique est un des très, très bons moyens pour lutter contre ces facteurs de risque. Donc après, on peut faire des activités physiques, rien que de la marche active, c'est bien. On en a été très privés pendant le confinement, donc il est temps de s'y remettre tous. Donc je pense que ce symbole-là aussi était important.
À la fois de se remobiliser de cette manière-là, oui, vous avez raison. Alors, remercier et soutenir les personnels soignants, c'est une chose. Il y a aussi l'idée d'une récolte de fonds, hein, dans ce marathon que vous organisez.
Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas l'organisatrice du marathon.
Vous donnez
que la marraine et je donne le départ. Mais en effet, il y a plusieurs associations qui sont également en lien. Et puis, il y a une récolte de fonds afin d'aider les personnels soignants. Je ne sais pas comment les fonds seront distribués, mais je verrai à avoir les informations.
Alors, mais non, mais très bien. Mais en tout cas, il y a besoin de fonds, ça on l'aura bien compris. Cela dit, la marraine, vous donnez le coup d'envoi aujourd'hui. Vous êtes plutôt avec votre blouse blanche ou avec votre ancienne casquette d'ancienne athlète, si j'ose dire, Florence Coll?
Je suis sur les deux. Je serai avec ma blouse blanche tout de suite après le départ quand je rejoindrai les hôpitaux de Saint-Maurice. Parce que bon, mon métier, c'est le soin, et c'est le soin notamment des gens qui vont avoir un handicap plus tard et pour lesquels il faut lutter âprement. On a des gens qui sortent des épisodes de Covid, hein, à l'hôpital en ce moment, et qui doivent se battre pour reprendre la mobilité notamment. Et puis c'est aussi ma casquette d'ancienne sportive, même si c'est loin, hein, tout ça, 1988, les jeux de Séoul, c'est loin. Mais je garde évidemment une grande tendresse pour le milieu sportif, et je continue à faire une activité physique très régulièrement et à voir d'anciens athlètes. Donc cette initiative était forcément pour moi très symbolique, et je tenais absolument à y participer.
Oui, c'était fait pour vous, Florence Coll, d'un mot quand même, puisque je le disais en amorce, les personnels soignants restent mobilisés encore aujourd'hui. Évidemment, le plus dur de l'épidémie est derrière nous. Quelle est la situation dans les hôpitaux aujourd'hui? Comment ça va, tout simplement, Florence Coll?
Alors, il y a beaucoup moins de cas aigus. Maintenant, il faut qu'on s'attelle à réparer ceux qui gardent des séquelles de l'épidémie de Covid. Et puis, ce qui est important, c'est quand même, pendant toute cette période de confinement, beaucoup de patients ne sont pas allés à l'hôpital par peur d'attraper le virus. Et ils arrivent maintenant, ils arrivent beaucoup, ils arrivent nombreux, et on n'a pas encore tous les moyens qu'il faudrait pour les accueillir. Notamment les patients en psychiatrie, par exemple. ont besoin énormément de soins, les patients qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, qui est le domaine dont je m'occupe. Les neurologues, par exemple, parlent de la deuxième vague en termes plutôt de patients qui ne se sont pas présentés et qui gardent des séquelles aujourd'hui et qu'il faut absolument prendre en charge. Donc, on est loin d'avoir fini notre métier. Les soignants, les hôpitaux ont besoin de fonds, ont besoin d'être restructurés. Il y a un énorme boulot à faire. Vous n'êtes pas sans savoir quelle figure de la santé. J'espère qu'il va aboutir à des choses positives qui vont y concrètes pour les soignants, mais pour les hôpitaux aussi. Il y a beaucoup de travail, beaucoup.
Merci beaucoup. Je voulais absolument qu'on en dise un mot aussi. Merci Florence Coll d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1. Puis bon courage dans ce marathon. Coup d'envoi à 10h ce matin du côté de l'INSEP dans le bois de Vincennes. Florence Coll, chef de service de réadaptation neurologique aux hôpitaux de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Ancienne athlète, vous l'avez rappelé vous-même, les JO de Séoul en 88. Il est 6h23.
Europe 1. Le meilleur et le pire des réseaux sociaux dans un instant sur Europe 1 avec Paul Lassen et avec une phrase de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye qui fait réagir les internautes. À 6h26, vous écoutez Mathieu Bélière sur Europe 1.
Et nous sommes avec Paul Lassen, comme tous les matins, le meilleur et le pire des réseaux sociaux. Bonjour Paul.
Bonjour Mathieu.
Ce matin, une petite phrase prononcée par Sibeth Ndiaye qui a mis le feu aux poudres entre les internautes.
Tout a commencé dimanche dans la journée après une déclaration de la porte-parole du gouvernement qui s'est exprimée sur le cas de cette infirmière arrêtée après avoir jeté des pavés sur les policiers.
Je ne saurais pas expliquer aujourd'hui à mes enfants par exemple, est-ce qu'il est normal ou pas de jeter des pierres sur les forces de l'ordre.
Une phrase qui a fait bondir les syndicats policiers outrés qui ont réagi massivement sur les réseaux sociaux. Pour les commissaires de la police nationale, ces propos tenus par Sibeth Ndiaye sont indignes de sa fonction. Le syndicat Unité SGP Police fait un parallèle avec le manque de soutien du ministre de l'Intérieur. Encore une incongruité de plus et un manque de soutien ferme vis-à-vis des forces de l'ordre. Enfin, le syndicat Alliance demande carrément sa démission. Plutôt que de prendre la parole, elle devrait prendre la porte.
Une brèche dans laquelle se sont engouffrés les internautes.
Oui, des anonymes à la classe politique, beaucoup s'en sont donnés à cœur joie pour dénoncer cette phrase. Pour Florian sur Twitter, il est intolérable de laisser la porte-parole du gouvernement proférer de tels propos. Un avis partagé par bon nombre de politiques également. Pour la députée Les Républicains Valérie Boyer, par exemple, ce sont d'ignobles paroles. Pire, des propos lamentables qui ne sont ni sanctionnés ni dénoncés. Nicolas Dupont-Aignan envoie, lui, son soutien aux forces de l'ordre lâchées par le gouvernement. Mais il y en a quand même un, à droite, qui a bien écouté l'interview de Sibeth Ndiaye, c'est François-Xavier Bellamy.
J'ai pris le temps d'aller regarder la séquence dans son ensemble. Je trouve que l'expression de Sibeth Ndiaye est incroyablement contournée, mais je pense qu'on lui ferait un mauvais procès en se fondant uniquement sur cet extrait.
Oui, c'est plutôt une défense inattendue pour la porte-parole du gouvernement.
Oui, mais qui du coup peut se justifier si l'on écoute l'intervention complète de la porte-parole du gouvernement.
Que dirions-nous au fils ou à la fille du CRS qui reçoit cette pierre dans le visage? Qu'est-ce qu'on lui dirait? C'est pas grave? Non, on ne peut pas le dire.
Et c'est notamment suite à cette prise de parole que beaucoup d'internautes ont pris sa défense. Hervé, par exemple, écoutez son interview avant de lui jeter la pierre, c'est le cas de le dire. Elle dit exactement l'inverse de ce que les polémistes professionnels lui reprochent. D'autres internautes s'attaquent, eux, à l'emballement immédiat et trop rapide sur les réseaux sociaux. Pour Julien, l'avènement des réseaux sociaux est une aubaine pour tous les populistes. Ils peuvent faire des montages, trucages, sans être contredits. Enfin, petit Pépito, lui, essaye de relativiser.
C'est son nom, pardon.
C'est son nom sur Twitter, absolument. Je ne suis pas fan de Sibeth, mais arrête avec tes procès en sorcellerie et écoute tout le passage. Encore une fois, Twitter, calme-toi et bois un peu d'eau.
Oui, il faut boire frais, disait le Premier ministre. Merci Paul Lassen. Cela dit, la phrase est complexe. Faut la
c'est
répéter
alambiqué,
plusieurs fois. C'est alambiqué. Paul Lassen, le meilleur et le pire des réseaux sociaux. Tous les matins sur Europe 1, il est 6h29. Laurent Cabrol pour la météo.
35 à Toulouse dans le courant de la semaine, s'il vous plaît mes amis. 32 à Paris, 34 à Lyon, enfin vraiment des valeurs extrêmement élevées. On ne peut pas parler de canicule, on va parler de coups de chaleur, de coups de chaud, parce que ça ne va pas durer bien longtemps. Dès vendredi, surtout dès samedi, les températures vont baisser. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons un anticyclone qui se positionne sur nous quasiment, et nous allons vivre trois périodes très chaudes. Souvenons-nous, l'année dernière, La canicule historique pendant laquelle presque tous les records de chaleur ont été battus au sud de la Loire, eh bien nous n'en sommes pas là, fort heureusement, mais nous aurons bel et bien chaud. Aujourd'hui, 26 à Caen, 27 à Lille, 28 à Reims, Clermont-Ferrand-Colmar, à Marseille, Besançon, Rennes, Niort, Poitiers, Avranches, Je vois 29, je vois 30 à Paris aujourd'hui, à Bourges, 31 à Biarritz, 32 à Toulouse et Lyon, 33 à Valence, 34 à Nîmes. Et toutes ces belles températures ne demandent qu'une chose, à grimper.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol, il fera chaud. On va pas parler de canicule, mais on va avoir chaud quand même. On l'a bien compris. François Geffrier est avec nous. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal à 6h30.
Une bonne nouvelle que de retrouver vraiment quasiment tous les élèves, la vie de la classe, là où elle s'était arrêtée le 13 mars.
Quasiment tous, ou plus exactement 3 élèves sur 4 selon les remontées des syndicats de l'éducation, et donc toujours pas à un retour généralisé des élèves. Une nouvelle affaire, Laetitia Avia, la députée En Marche, déjà accusée de harcèlement et désormais soupçonnée d'avoir fait travailler ses assistants parlementaires sur sa campagne municipale, ce qui est illégal. Et puis une technique spectaculaire pour freiner la fonte des glaces. Les recouvrir d'un tissu spécial. Les explications à la fin du journal.
Question de droit et réponse de l'avocat d'Europe 1. Vous avez cotisé pour votre retraite, même si votre contrat de travail a été suspendu pendant le confinement. C'est ce que nous dira Roland Pérez. À 6h40, recréer localement du lien social, du développement économique. Le gouvernement étudie le projet d'un lancement de 500 manufactures de proximité. On va en parler avec mon invité juste après le journal. Et puis nous vous emmenons en Allemagne, en Argentine et en Côte d'Ivoire dans la revue de presse internationale avant 7h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Même pour 2 semaines, le ministère de l'Éducation jugeait utile de faire revenir 100% des élèves dans les classes, ne serait-ce que pour leur éviter de passer 6 mois d'affilée sans aucun contact avec le milieu scolaire.
L'objectif n'est pas complètement atteint selon les professionnels de l'enseignement interrogés par Ève Roger.
Une bonne nouvelle que de retrouver vraiment quasiment tous les élèves, la vie de la classe, là où elle s'était arrêtée le 13 mars.
Satisfaction pour Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat SEUNSA. Selon l'enquête flash menée auprès de ses adhérents, 75% des élèves ont repris hier le chemin de l'école, les 3/4. Mais c'est à son passage aux toilettes pendant la récré que Charlotte, en CM1 dans l'Ouest parisien, a noté le changement.
Il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Parce qu'avant, il y avait 5-6 personnes aux toilettes et maintenant, on a une queue de 20 personnes.
Pas encore de chiffres officiels du côté de l'éducation nationale, mais plusieurs directeurs confirment la tendance. Entre 75 et 85% des effectifs, sauf dans certains quartiers plus défavorisés, reconnaît Stéphane Crochet.
J'ai des retours plus faibles en éducation prioritaire, où on avait déjà remarqué que c'était là que les familles avaient le plus de craintes face à l'épidémie.
Et puis le collège non plus n'a pas fait carton plein, autour de 60% de retour. Dans beaucoup d'établissements, les élèves ne sont revenus qu'à mi-temps. Et puis d'autres ont déjà tourné la page, les livres sont rendus et le conseil de classe presque déjà un vieux souvenir.
Dans les entreprises, un nouveau protocole sanitaire va s'appliquer dans les prochains jours. Fini les 4 mètres carrés par salarié, il faudra seulement respecter une distance d'un mètre.
Et une nouvelle difficulté dans la campagne de La République En Marche pour Paris. La députée Laetitia Avia, candidate dans le 12e arrondissement, épinglée par Mediapart dans une affaire qui rappelle les démêlés judiciaires d'un autre parti, le Rassemblement National. Précision de Jean-Gabriel Bourgeois.
Ce sont de nouvelles révélations qui fragilisent un peu plus la candidature d'Agnès Buzyn. Au moins 2 assistants de la députée de Paris, Laetitia Avia, candidate LREM dans le 12e arrondissement, auraient travaillé sur sa campagne municipale entre septembre 2019 et mars 2020. Mediapart publie des copies de messages dans lesquels la députée demande à ses collaborateurs d'organiser un déplacement ou de réaliser un tract de campagne. Toujours selon Mediapart, des réunions auraient été organisées dans le local de la députée. Une permanence qu'elle partage avec son collègue Paco Mrupin, tête de liste d'En Marche dans le centre de Paris. Des faits interdits par le code électoral et démentis par l'avocat de Laetitia Avia. Embarras dans l'entourage d'Agnès Buzyn, son équipe reste silencieuse. Même chose du côté de l'Assemblée. Dans le camp d'Anne Hidalgo, on préfère attendre la tenue du second tour dimanche avant d'envisager un recours. Mais Rachida Dati passe à l'offensive. La candidate de droite demande le rejet des comptes de campagne et l'annulation du scrutin dans les 2 arrondissements concernés.
La campagne à Paris, nous serons avec David Béliard à 8h15, l'allié écologiste d'Anne Hidalgo, invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 ce matin.
Il est 6h34.
Et près de 7 heures de fouilles hier dans les Ardennes sur une ancienne propriété de Michel Fourniret. Pour l'instant, sans résultat.
Il s'agit de tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, à qui le tueur en série a récemment avoué avoir pris la vie, Lionel Gougelot.
La cave et le jardin de la villa ont été traités comme de potentielles scènes de crime. Géoradar dans le sous-sol pour radiographier le terrain sous la dalle de béton, luminol pour faire apparaître d'éventuelles traces de sang, carottage dans le jardin et survol d'un drone pour repérer les variations de végétation et déceler un endroit où la terre aurait pu être creusée. Un expert archéologue, des militaires du génie en renfort, mais malgré ces moyens exceptionnels, aucun indice probant permettant d'indiquer qu'Estelle a pu être enterrée ou même séquestrée ici par Michel Fourniret. 7 heures de fouille donc, et désespoir déçu, selon Didier Seban, l'avocat d'Éric Mouzin, le papa de la fillette.
On est forcément déçu parce qu'on n'a pas avancé. Tout n'a pas encore été vérifié. Il y aura encore des recherches autour de cette maison, mais en tout état de cause, c'est une première étape. Donc nous avons bon espoir. Maintenant, il reste à retrouver pour la famille le corps d'Estelle, et c'est ce que nous souhaitons.
L'ancienne maison de Fourniret n'a donc peut-être pas livré tous ses secrets, mais en attendant, les enquêteurs ont un deuxième objectif. Le château de Sautou, autre ancienne propriété du tueur en série, située à quelques kilomètres d'ici, où deux de ses victimes avaient été exhumées en 2004. À Ville-sur-Lume, Lionel Gougelot, Europe 1.
Le grand pèlerinage à la Mecque, il sera réservé aux personnes se trouvant déjà en Arabie Saoudite cette année. Précaution sanitaire, alors que ce rassemblement avait réuni 2,5 millions de personnes l'été dernier et que la pandémie de coronavirus s'accélère dans le monde, selon l'OMS.
Ça paraît à peine croyable. Dans les Alpes italiennes, on tente de sauver un glacier en le recouvrant d'un immense drap blanc.
Oui, opération de la dernière chance pour le glacier de Presena qui a fondu d'un tiers depuis les années 90. Virginie Salmen.
Une douzaine d'hommes se sont mis à la couture. À plus de 2700 mètres d'altitude, ils assemblent 100 000 mètres carrés de grands draps blancs conçus dans une matière technique qui réfléchit la lumière du soleil et empêche la glace de trop chauffer en dessous.
Il y a 10 degrés de différence entre la température de l'air et la température sous ce drap géotextile.
Précision de Sonia Menici de l'entreprise Carosello Tonale qui passe plus d'un mois chaque année au sommet avec des dameuses pour installer ce tissu inventé par des scientifiques. Ça fait déjà 10 ans qu'ils font ça, mais chaque année, la surface à recouvrir augmente. Elle a déjà triplé, mais est-ce efficace? Réponse du chercheur Météo France CNRS et auteur du GIEC, Samuel Morin.
Le fait de couvrir un glacier par un textile, c'est quelque chose qui a fait ses preuves en matière d'efficacité. Ça permet de réduire fortement la fonte de 50% à 70%. Pour autant, il y a des coûts de transport, il y a des coûts de mise en œuvre qui rendent cette opération délicate et discutable si on veut l'étendre à des très grandes surfaces.
Ça, c'est déjà fait, mais de façon très ponctuelle en France. Par exemple, dans la vallée de Chamonix, pour éviter que des crevasses ne s'ouvrent trop vite et condamnent l'accès pour les skieurs ou les alpinistes.
La spécialiste de l'environnement sur Europe 1, Virginie Salmen.
Merci beaucoup François Geffrier. Ce drap blanc gigantesque, il faut que j'aille voir les images absolument pour préserver un glacier. On en est là aussi en 2021. C'était le journal de 6h30 sur Europe 1. 6h37, très bon réveil à toutes et à tous.
Une question de droit qui trouve sa réponse sur Europe 1 avec notre expert juridique Roland Pérez.
Bonjour Roland.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Normalement, Roland, le droit du travail prévoit que les salariés placés en chômage partiel ne cotisent pas pour leur retraite, alors que la loi d'urgence sanitaire a prévu précisément le contraire. Expliquez-nous.
Oui, la crainte, Mathieu, était qu'en cas de prolongement de la durée du chômage partiel, les salariés perdent un trimestre complet de cotisation, alors que pour d'autres salariés, crise sanitaire oblige, on le sait, le chômage partiel perdure. Il fallait donc pour la ministre du Travail intervenir pour permettre à ces salariés l'acquisition de droits à la retraite de base pendant toute la période d'activité partielle et ainsi atteindre le montant nécessaire pour valider un trimestre. Il restait également le problème des cotisations aux caisses complémentaires de retraite des salariés du privé, l'ARGIC et l'ARCO, sur lesquelles le gouvernement ne pouvait pas agir. Et là aussi, il a été décidé par les conseils d'administration de ces caisses que sous certaines conditions, ces mêmes salariés bénéficieront de points retraite sans contrepartie de cotisation. Enfin, pour toutes les garanties prévoyance complémentaires souscrites par l'employeur au profit des salariés, pour couvrir notamment les risques d'essai, d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'inaptitude ou même le risque chômage, là encore, les salariés ont continué à être couverts, bien qu'ayant été sans activité ou activité partielle du fait du Covid. Et très bonne nouvelle Mathieu, même si le contrat de mise en place de ces garanties prévoyait à l'origine le contraire, les salariés bénéficieront de ces garanties.
Et ce régime de faveur, il va se prolonger jusqu'à quand ?
Il a commencé le 12 mars et devrait à minima aller jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle, Mathieu, on l'imagine, la situation sera réévaluée.
Merci Roland Pérez. Votre question de droit, c'est tous les matins sur Europe 1, juste après le journal de 6h30.
Europe 1,
La matinale d'Europe 1 avec vous Mathieu Béliard, la suite.
Les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1 le matin. 8h15, le second tour des municipales à Paris. Sonia Mabrouk reçoit le colistier d'Anne Hidalgo, l'écologiste David Béliard. 7h40, la Ligue 1 retrouve les terrains d'entraînement depuis quelques jours. L'Olympique de Marseille sera bien en Ligue des Champions, mais avec de lourdes difficultés financières. Jacques-Henri Hérault, président de l'OM, invité de la matinale d'Europe 1 à 7h40 tout à l'heure. Tout de suite, la relance économique par les territoires. Le gouvernement qui projette de lancer l'installation de 500 manufactures de proximité, ce que l'on appelle des tiers-lieux et qui seront au centre du plan de relance. On va définir ces tiers-lieux. Que sont-ils dans quelques instants sur Europe 1, tout de suite.
Il est 6h42, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Votre invité Mathieu Béliard, c'est Patrick Lévivette, président de l'association nationale France Tiers-Lieux.
Bonjour Patrick Lévivette.
Bonjour.
Les acteurs de l'actualité en direct avec nous le matin sur Europe 1. Alors le gouvernement étudie le projet, quel est-il ? La création de 500 manufactures de proximité pour recréer du lien social, faciliter l'activité, le développement économique d'un territoire. Vous y travaillez, vous, Patrick Lévivette. Simplement, c'est quoi un tiers-lieu ?
Tiers-lieu, c'est un nouvel outil, un espace de travail mutualisé, souvent, espace de coworking, on parle plutôt d'espace de coworking dans les grandes villes, des Fab Labs, vous savez, ces endroits où on prend des machines 3D ou des fraiseuses numériques, et puis on fabrique des nouveaux outils, des nouveaux lieux d'expression collectifs, coworking, de partage, et qui, sur le territoire, se sont développés depuis maintenant de nombreuses années. On en avait recensé 1800, 2000 à l'occasion d'une mission que m'avait confiée le gouvernement il y a maintenant 2 ans, qui se développent et qui permettent tout simplement aux acteurs du territoire qui ont envie de se prendre en main, qui ont envie de faire des choses, de se retrouver pour y travailler, mais aussi pour l'inclusion sociale ou l'inclusion numérique.
Oui, il y a cette idée, oui, 1800, 2000 à peu près, bien souvent une friche industrielle ou des bureaux désaffectés, administratifs, qu'on va récupérer, réhabiliter, mutualisation des matériels. Ça, c'est le premier point qui revient. Je suis artisan, j'ai un métier de production. J'ai pas forcément les moyens d'acheter toutes les machines. Là, on peut les mutualiser, se retrouver dans cet espace-là, déjà.
Oui, absolument. Il y a quelques exemples en France aujourd'hui, une dizaine, qui démontrent leur formidable utilité. Il y en a un peu partout sur le territoire aujourd'hui. Et c'est absolument central parce que la crise du Covid-19, c'était vrai avant. On a une perte de savoir-faire en France, des métiers d'art, des métiers numériques, bien sûr, parce qu'ils n'existaient pas, mais des métiers d'art. Et tout simplement, on manque d'artisans. Et c'est les premiers qui vont être touchés par la crise, les indépendants, les TPE. Je vous rappelle, les TPE, c'est 95% des entreprises françaises, 3,3 millions d'entreprises des TPE pour 20% des salariés français. Et c'est toujours eux, quand il y a une crise, qui sont les premiers touchés. Or, précisément, ce projet, c'est de permettre à la fois d'intégrer cette crise, de leur apporter des outils mutualisés, leur permettre de recréer de l'activité et surtout d'apporter des infrastructures de nouvelles, de numérique, où le numérique évidemment est au cœur et qui permet de redévelopper l'activité.
Je ne connais pas très bien à la base ces tiers-lieux à titre personnel. Cela dit, ce qu'ici on a aussi beaucoup entendu, c'est la solitude de certains de ces petits patrons, patrons de TPE, des petits artisans, des gens qui font les choses avec leurs mains, qui se retrouvent parfois isolés. Et ce que vous précisez, c'est important. Quand on pense Paris, métropole, il y a 40% des Français qui vivent en dehors des métropoles. C'est à ces gens-là que vous vous adressez beaucoup. Il leur manque quoi ?
Il leur manque beaucoup. Il leur manque beaucoup parce qu'en fait, quelle est la problématique des territoires ? C'est qu'il y a souvent beaucoup moins de concentration de population. Les citoyens sont moins concentrés. Alors, ils ont une qualité de vie, souvent intéressante, mais il manque des infrastructures du quotidien. Il manque des infrastructures de travail. Et pour le coup,
il manque parfois tout simplement aussi du réseau. Parfois,
oui,
juste la 3G, ce serait bien.
Oui, absolument. Précisément. Alors, il se trouve qu'on a pris beaucoup de retard, mais que le gouvernement l'a mis le paquet. Qu'en 2022, les infrastructures numériques vont être à peu près partout en France. Les 15 000 zones blanches, on appelle ça des zones blanches, on ne pouvait absolument pas appeler. Vous prenez votre voiture.
Il faut aller sur la place du village
exactement,
pour lever le bras très haut.
On se met sur un caillou à un autre endroit quand on est dans le rural. Bon, c'est fini. A priori, d'ici 2 ans, on aura complètement maillé le territoire de ces infrastructures, soit parce que la 4G y sera, enfin, soit parce que la fibre a été réalisée, mise en place. Donc les infrastructures vont exister. Enfin, après, il faut bien des infrastructures d'usage. Il ne suffit pas d'avoir un pylône ou un poteau. Premier élément. Deuxième élément, au-delà même de refabriquer de l'activité, le télétravail se développe et va se développer. La crise qu'on vient de connaître, évidemment, en est l'illustration la plus parfaite. Et il faut ces infrastructures. Si on veut que nos concitoyens évitent de prendre la voiture, 88% des Français prennent la voiture le matin. 88%. Donc si on veut réduire l'impact carbone. Si on veut vraiment faire cette transition écologique, il faut pouvoir travailler près de chez soi.
Projet, il faut bien comprendre que c'est un projet, c'est pas des idées, c'est un projet d'infrastructure, d'aménagement du territoire, c'est du solide.
Ah bah c'est du concret, c'est du solide, c'est 500 manufactures, elles doivent se retrouver. Notre proposition que nous avons fait au gouvernement, c'est qu'elles soient à l'intersection des flux pendulaires. C'est quoi les flux pendulaires hein, dans le jargon administratif? C'est les déplacements, c'est les endroits
mobilité, domicile,
où vous avez le plus de mobilité, de plus de déplacements pour aller de son domicile à son travail le matin. Donc c'est très concret et c'est aux endroits où il y en a le plus besoin sur le territoire.
Alors on a beaucoup parlé de ces questions d'égalité entre territoires au moment de la crise des Gilets jaunes, bien sûr, très récemment. Est-ce que la crise du coronavirus, là, a changé la donne? Vous l'avez dit, le télétravail, on s'est aperçu de la nécessité de pouvoir travailler à distance. On sait que dans ces manufactures, il y a aussi du réseau qui se joue entre les artisans eux-mêmes. Aujourd'hui, est-ce que la crise récente a changé la donne?
Elle a été c'est absolument impressionnant. Pourquoi? Parce que pendant la crise, les Fab Labs, puisqu'on les appelle comme ça quand on fabrique en France, 400 à peu près tiers-lieux ont réalisé du matériel médical, du matériel pour des soignants, des visières, ici des visières. Il y a énormément de tiers-lieux qui ont réalisé des visières, des pousse-seringues. Vous avez eu de l'entraide pour les CHU, pour les EHPAD. Il y a eu de l'entraide solidaire, évidemment, de distribution de matériel de santé. Mais mieux encore, et c'est intéressant, vous savez, on parle beaucoup des circuits de recyclage qui sont des vraies filières économiques qui naissent. Vous avez des CHU qui ont fait appel à des Fab Labs, à des ateliers partagés ou à des tiers-lieux plus classiques, tout simplement pour refaire des pièces détachées parce qu'il y avait des machines qui étaient tombées en panne à l'intérieur des CHU. Autrement dit, la production de l'hyper-proximité dans cette crise a démontré son utilité. Et comme on sait que c'est un des enjeux prioritaires, en plus et à côté des industries, il faut qu'on ait des infrastructures de proximité, il faut qu'on ait des petites unités de production. Et c'est ça notre proposition, c'est de les installer, c'est de créer ces infrastructures et c'est redonner de l'espoir dans les territoires pour recréer de l'activité.
Et l'ambition du gouvernement, la création de 500 de ces manufactures de proximité, en plus des 1800 qui existent déjà. On écoute le monde changer, le monde du travail changer, en l'occurrence avec vous ce matin, Patrick Lévivette. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir pris quelques minutes pour expliquer la démarche aux auditeurs d'Europe 1. Vous êtes le président, je le rappelle, de l'Association nationale France Tiers-Lieu. Il est 6h48.
Europe 1. Un coup de fil passé aux correspondants d'Europe 1 présents sur tous les continents, la revue de presse internationale. Et nous serons en Allemagne, en Côte d'Ivoire, en Argentine. A tout de suite. À 6h51 sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard, la revue de presse internationale.
Notre réseau de correspondants sur tous les continents. Nous allons démarrer ce matin en Argentine avec Aude Villiers-Moriamé. Bonjour Aude.
Bonjour Mathieu.
À la une en Argentine.
Eh bien, c'est la très probable prolongation d'un confinement déjà record dans le Grand Buenos Aires. Ce dimanche, ça fera 100 jours que les habitants de cette zone la plus touchée par l'épidémie de coronavirus sont confinés et ça pourrait encore durer jusqu'à la mi-juillet, selon la presse argentine. Le durcissement du confinement en discussion, titre le journal de gauche Página 12, qui fait le bilan d'une réunion d'urgence qui a eu lieu hier entre le président, le maire de Buenos Aires et le gouverneur de la province de Buenos Aires. Aucune décision officielle n'a fuité, mais La Nación avance que davantage de contrôles sont prévu. Le journal conservateur s'inquiète des conséquences de ce long confinement sur la situation économique déjà désastreuse de l'Argentine. Il publie un article sur les difficultés des petites entreprises contraintes de baisser le rideau. Le journal Clarín, quant à lui, se penche sur la hausse des tensions familiales après plus de 3 mois de ce que le quotidien qualifie de confinement XL.
Merci Aude Villiers-Moriamé à Buenos Aires pour Europe 1. Hélène Coletta, Berlin. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Allemagne ?
La presse allemande essaie de comprendre ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Stuttgart. Une bande de 500 casseurs a ravagé le centre-ville. Aucune motivation politique ni religieuse, aucun lien avec la situation aux États-Unis, précise le Bild-Zeitung. C'était juste une violence urbaine gratuite du jamais vu en Allemagne, dit le Spiegel. Les jeunes s'en sont pris spécialement aux forces de l'ordre. Ils filmaient leurs actes pour les mettre sur Internet. D'après le journal local Badische Zeitung, cela fait des semaines qu'ils provoquent la police sur les réseaux sociaux et dans les parcs où ils se retrouvent pour faire la fête la nuit, car les bars et les boîtes sont toujours fermés. 24 personnes ont été interpellées, des jeunes hommes de 16 à 33 ans. Pour contrer les récupérations de l'extrême droite, la presse donne le détail des nationalités et précise aussi leurs origines ethniques. Pour l'essentiel, ce sont des Allemands.
Hélène Coll à Berlin pour Europe 1. Merci Hélène. François Hume en Côte d'Ivoire. Bonjour François.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qu'on lit dans la presse chez vous ?
En une de la presse, la course à la présidentielle qui offre un bien étrange tableau. Un candidat en exil, condamné à 20 ans de prison et déchu de ses droits civiques, Guillaume Soro. Un convalescent fantomatique, hospitalisé en France depuis 2 mois, Amadou Gon Coulibaly. et désormais un candidat du quatrième âge. Henri Conan-Bédier, dinosaure de la politique ivoirienne, annonce son intention de briguer la magistrature suprême à l'âge de 86 ans. Monsieur Bédier se voit donc à nouveau sur le fauteuil présidentiel, plus de 20 ans après l'avoir quitté, écrit Africa Success, qui rappelle que l'homme politique a dirigé le pays de 93 à 99. L'âge avancé du sphinx de Daoukro, comme on le surnomme, a aussi provoqué un torrent de moqueries sur les réseaux sociaux que rapporte Bénin24.com. « On est fatigué des vieux qui mettent le pays dans la merde », commente le célèbre pasteur Makoso Camille. « C'est le président le plus vaurien de l'Afrique », ajoute la star du reggae ivoirien Tiken Jaffa Coli, passablement énervé.
François Hume, en Côte d'Ivoire pour Europe 1, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne et l'Argentine. C'était la revue de presse internationale. C'est tous les matins, 7h10 sur Europe 1.
Europe 1.
Un nouveau journal à 7h. La météo à suivre avec Laurent Cabrol sur Europe 1. Europe 1. 6h57, Mathieu Béliard sur Europe 1.
Mardi 23 juin, bon réveil à tous avec la rédaction d'Europe 1. Ensemble, on écoute le monde changer. On écoute Europe 1 ce matin de Paris à Marseille. Paris, le second tour des élections municipales. L'écologiste David Béliard, aucun lien toujours, a rallié Anne Hidalgo. Il sera l'invité ce matin, 8h15, de Sonia Mabrouk. À Marseille, ce matin, il sera question de football. Et les supporters de l'OM se sont déjà passé le mot. Leur président prend la parole et c'est sur Europe 1 ce matin. Voilà une musique qu'on n'entend plus au Stade Vélodrome depuis le début du mois de mars. L'Olympique de Marseille qui se réjouit de l'arrêt du championnat. Oui, les Marseillais sont ainsi propulsés en Ligue des Champions. Mais avec quelles armes? Le club en difficulté financière? Est-ce que les stars seront à vendre? Je poserai la question. Parmi les stars de l'OM, un champion du monde, Steve Mandanda, le président et le gardien de l'OM, qui s'engage contre le racisme dans une tribune. Le joueur africain est déjà entré dans l'histoire du football européen. À 7h40 ce matin, Jacques-Henri Hérault, président de l'Olympique de Marseille, sur Europe 1. À 7h50, l'opinion de Nicolas Bétou.
Les amis, je reviens parce qu'il y a, soi-disant un espèce de oui-dire qui dirait que j'aurais jeté l'éponge.
Jean-Marie Bigard laisse planer le doute sur son projet de se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est bien sérieux? Nicolas Bétou, son édito et la tentation du trublion avant 8h sur Europe 1. Et 8h30 ce matin, discussion avec vous sur le déconfinement. Êtes-vous toujours aussi rigoureux sur les gestes barrières? Question simple, est-ce que vous serrez la main? Est-ce que vous faites la bise? Dites-le nous au 3921 et sur le hashtag Europe 1. 6h59, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et les astronomes vous diront que le soleil est blanc, mais qu'il diffuse des lumières de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et que dans ces couleurs, la seule qui parvient jusqu'à nous, c'est le bleu. C'est la raison pour laquelle notre ciel est bleu, et il le restera toute la journée sur toute la France. Mesdames et messieurs, c'est un grand moment.
Waouh.
Température.
C'est solennel.
Je voulais être un peu solennel. 26 à Caen cet après-midi, 27 à Lille et à Belfort, à Épinal, Colmar, Clermont-Ferrand, Reims et Nice, 28, mais bon sang de bonsoir, il y a mieux, Besançon, Rennes, Niort, Poitiers, Avranches, 29, 30 à Paris et à Blois, 31 à Biarritz, 32 à Toulouse et Bordeaux, 33 à Valence et Tarascon, et 34 à Nîmes et à Alès. Voilà.
Merci mon cher Laurent Cabrol. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer.